Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. 31e émission, déjà avec une équipe toujours fidèle, organisée et dynamique. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour, bonjour Jonathan.
Waouh, tout le monde réagit d'un coup, ça veut dire qu'on va passer une belle heure ensemble. Petit retour en arrière sur les performances sportives, bonnes ou mauvaises, de la semaine dernière dans les tops et les flops de l'équipe. Nouvel entretien où nous parlerons une nouvelle fois d'un sport de raquette, un sport que nous pratiquons tous autour de cette table avec plus ou moins de réussite. Le tennis de table sera à l'honneur de l'entretien d'aujourd'hui. Nous recevrons Albaran Molinar, le président de l'US Montauban Tennis de Table, pour nous parler de son club, sa passion et des épreuves aux Jeux Olympiques de l'été prochain, avec des chances de médaille française ou pas. Après les bonnes performances des Bleus lors de ces dernières compétitions, on va aussi avoir une petite anecdote sur les frères Lebrun qui ont été en finale des championnats de France ce week-end, mais là aussi on en parlera un petit peu plus tard. La question de la semaine: quel sportif portera le drapeau? Quels sont les sportifs ou sportives qui porteront le drapeau le 26 juillet prochain? On répondra à cette question ensemble un petit peu plus tard, et puis on terminera avec un pronostic et une analyse du match qui va arriver très rapidement. Pas d'informations sportives, Corinne Saint-Félix a bien mérité une semaine de vacances. Alors, comment ça va autour de la table aujourd'hui à distance avec Anne-Françoise?
Eh ben ça va bien, ravi de vous retrouver.
Est-ce que vous avez passé une bonne semaine, Anne-Françoise?
Pas mal, il faisait hyper beau, donc c'est un petit air de printemps là. Bon, là on est un petit peu retourné en hiver aujourd'hui,
on a pris une petite gifle, là,
vraiment oui. Je trouve que ça remet le moral.
Ça remet le moral là où il est, quoi. Il n'y a pas d'autre, pas d'adjectif qualificatif derrière.
Non, mais le moral est revenu, voilà, ça... tout simplement. Ça, en fait, ça donne envie de sortir.
Ça remet les chaussures.
Faire un petit tour de vélo, un petit jogging en forêt, vous voyez.
Ah, magnifique.
Avec son chien, voilà.
On gambade alors avec vous, Anne-Françoise.
On gambade,
voilà. Erwan, Julien, tout s'est bien passé?
Super week-end, très beau. Voilà l'occasion d'aller faire un petit foot entre amis.
Ah, vous êtes arrêté à footing, j'ai cru que j'allais pouffer de rire, c'est pour ça.
Ah, d'accord, pourquoi d'un footing? Vous n'imaginez pas courir?
Julien, ça c'est tout, vous, tout va bien?
Moi, voilà, bon, très, très bonne semaine, très bon week-end de sport, on s'est régalé comme d'habitude. Voilà.
Et puis il y a Coraline qui fait un petit peu ce qu'elle peut malgré une mâchoire approximative. Comment ça va, Coraline? Oui ou non? On vous demande pas plus de détails si jamais vous pouvez pas.
Bonsoir à tous. Ah. Voilà, c'est à peu près le maximum que je peux donner en termes d'articulation. C'est compliqué.
Qu'on retrouve après quelques semaines après une opération.
Welcome back.
Oui. On Merci. Vous retrouve à la fin de l'émission pour dire au revoir.
Voilà, exactement. Voilà. Bonjour, allez. Au revoir. Ça suffit.
Voilà, pour plus de détails, on vous retrouvera dans 15 jours. Voilà à peu près le programme et l'équipe qui va nous accompagner aujourd'hui. Tout de suite, on commence directement par les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Et on va commencer par Julien.
Bah écoutez, moi pour le top, voilà, j'ai voulu partir un peu sur, voilà, parce que bon, on parle beaucoup des Jeux Olympiques, mais il y a aussi les Jeux Paralympiques. Et il faut savoir que ce week-end, nos Bleus ont décroché 12 titres aux Mondiaux sur piste à Rio, donc du paracyclisme. Donc très très bon week-end de la part des Français, surtout si on prend par rapport à l'année dernière. Donc là, ils ont fait 12 médailles au total, 12 en or, 5 en argent et 2 de bronze, donc ils portent le total à 19. Et à noter que c'est mieux qu'aux Mondiaux l'an dernier à Glasgow, où il y en avait eu 14 au total et 7 en or. Donc on voit que le paracyclisme aussi continue de grimper. Et donc à 5 mois maintenant des Jeux Paralympiques, nos chances de médailles, ça croît.
5 mois, je viens de prendre une petite claque là.
5 mois,
c'est
ça passe
déjà
vite,
5
hein.
mois.
Ouais. Et bientôt.
Ça avance.
J'ai l'impression que le tirage au sort, il a été fait, hier. Voilà. Paris, Los Angeles, super, mais en fait non, c'est dans 5 mois. Voilà, le temps passe vite quand on s'amuse. Flop?
Et mon flop, après flop, c'est vrai que c'est peut-être un peu dur d'en parler comme tel, mais je voulais parler de notre Kevin Mayer, français au Décathlon, qui ce week-end, lors du meeting de San Diego, il a déclaré forfait donc, pour la troisième fois. Et donc il faut savoir qu'il n'a toujours pas réalisé ses minima olympiques, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore sa qualification pour les JO. Donc ces petits pépins physiques qui traînent depuis de longs mois commencent à être un peu préjudiciables.
Et
c'est surtout préoccupant. Ouais. Voilà, préoccupant, du coup, maintenant 4 mois et demi des JO, voilà, c'est un peu avant. Donc c'est un peu compliqué pour Kevin Mayer, et on espère qu'il va pouvoir se remettre en jambe plus vite.
Il va faire les minima déjà pour
participer. Il va faire surtout les minima. Et bon voilà, le double champion du monde d'ailleurs, espérant que bon voilà, au vu de l'état actuel des choses, s'il arrive à récupérer une médaille, ce sera déjà un sacré exploit.
Parce
que
pour le participer,
oui. Surtout oui.
Parce que voilà. Pour le coup, lui, avec lui, il y a vraiment une vraie chance de médaille d'or même. Donc voilà.
Complètement.
Allez Kevin.
Sachant que ça fait quelques années que Kevin Mayer n'a pas fini un décathlon, n'a pas fini deux décathlons la même année. Voilà, donc là, s'il doit se qualifier, il doit en finir un et après finir celui des JO. C'est tout ce qu'on lui souhaite, mais ça serait vraiment un pari incroyable. Mmh. Et s'il le réussit, il rentrerait dans la légende très rapidement.
Voilà, très bien. Merci pour ces précisions, Erwan. Mais justement, puisque vous avez la parole, on passe à vous.
Mais écoutez, moi, pour le top, j'ai essayé de passer sur l'inébranlable, l'inénarrable, l'incroyable, oula, l'absolument fantasmagorique, le malicieux, l'espiègle,
j'ai rien fait ce week-end, vous n'êtes pas obligé de me donner autant d'adjectifs.
Ne vous inquiétez pas, Jonathan, je ne parle pas de vous, mais je parle de celui gentil, dont on ne peut plus passer à côté, mais ça depuis plusieurs années, vous l'avez compris, je parle d'Antoine Dupont, qui d'accord, est absolument sensationnel depuis qu'il est sorti de l'œuvre, en fait, de l'œuvre de la grande famille du rugby.
Et il est sorti de Castres, est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, même à Castres, était déjà très bon, même s'il était un peu dans l'ombre du grand Rory Cocotte, certains Castres diront. Mais voilà, Antoine Dupont a été vraiment sensationnel contre Bordeaux, dans une situation un peu de crise imprévue, où Thomas Ramos, blessé à la crête iliaque, donc à la quatrième minute de jeu, a dû laisser sa place après un plaquage qu'il n'avait pas totalement maîtrisé. Antoine Dupont rentre, il doit rentrer en 10, sachant qu'il doit faire du coup 76 minutes minimum en 10, on compte pas les minutes qui vont au-delà du temps réglementaire. Mais voilà, Antoine Dupont, il a régalé. Alors, il a commis aussi beaucoup d'erreurs, mais en même temps, il a tellement proposé que c'est vraiment dur de lui en vouloir de ces quelques erreurs, même si, bon, Toto, on t'aime beaucoup. Mais les quelques interceptions qu'on fait nous coûter très cher et qui nous ont parfois coûté cher, pour la prochaine fois, on s'en passera. Mais sur tout le reste...
Attention, vous corrigez Antoine Dupont.
Ah non, parce que justement, c'est ce que je veux dire. J'ai commencé en le glorifiant et je vais continuer en le glorifiant. C'est que sur la suite, Antoine Dupont, il a été absolument sensationnel. Je ne sais pas si vous avez vu cette statistique, il a porté 27 fois le ballon. Il faut savoir qu'on peut dire, oui, d'accord, c'est mal, je n'en ai aucune idée. Et moi, je vous le dis, et ce n'est pas moi qui vous le dis, mais en fait, c'est énorme. L'histoire du rugby. Depuis la saison 2010-2011, il n'y a aucun joueur des lignes arrières qui a porté autant de fois le ballon sur un match de top 14.
On aimerait arrêter de parler d'Antoine Dupont, sauf qu'il est tellement exceptionnel.
Exactement.
C'est-à-dire que c'est un petit peu le genre idéal. Il sait tout faire. Il ne rate rien. Et quand il le rate, il assume. Et puis même ça, il le fait bien.
Voilà.
Et un même petit peu agaçant.
C'est surtout dans le poste dans lequel il est repositionné. Surtout, il était donc en poste de demi d'ouverture.
Il sait tout faire.
Donc, effectuer 27 courses.
On devrait le
dans ce
pilier.
Registre-là, c'est quand même assez incroyable.
Première ligne, ça voit. Peut-être pas, non. Il risque de ramasser.
Première ligne, il y aura un peu de mal, mais deuxième.
Il faut le mettre au milieu. Ça.
Ouais. À mon avis, au talon, il pourrait lancer correctement.
Ah ouais, talonneur, peut-être. Hein, ouais.
Oui. Il faut le mettre avec des petits piliers, alors.
Ouais.
C'est ça.
Il faut le mettre contre... Non.
Ou alors, on lui met des talons.
Un match amical peut-être contre une équipe amicale. on va pas donner de nom, sinon on va se taper sur les doigts.
C'est vrai qu'Antoine Dupont était absolument sensationnel. Et puis voilà, il y a des stats qui parlent 139 mètres parcourus, deux franchissements et des passes au pied, des passes sautées absolument incroyables. C'est vraiment le type de joueur qui incite à mettre ses enfants au rugby et qui fait rêver les enfants au-delà de ça. Et moi, c'est tout ce que j'aime dans le sport. Donc voilà, j'étais obligé de le mettre en top.
Voilà, très bien. Merci beaucoup, Erwan. Et là, votre flop est un petit peu plus international, me semble-t-il.
Ah oui, c'est ça exactement. Il est même à des horaires décalés, puisqu'il a pris place ce week-end très tôt le matin. Alors, je ne vous en voudrais pas si vous l'avez regardé en replay. Je parle du Grand Prix d'Australie, parce que moi-même, je l'ai regardé en replay. Et je sais que notre cher Jonathan Bello l'a aussi regardé en replay.
Oui, je travaillais.
Voilà, donc je vais m'efforcer de ne pas essayer de faire trop de gaffe, parce que je sais que notre cher présentateur est un amateur inconditionnel de F1 et qu'il comptera me reprendre si jamais je me trompe, mais voilà, il y a eu une petite situation en toute fin de Grand Prix avec Russell
en Australie, d'où le décalage horaire.
En Australie, oui, d'où le décalage horaire. Donc avec Russell, le pilote de Mercedes, qui a eu un accident et où tout simplement sa voiture s'est à moitié retournée et s'est mise totalement en opposition sur la piste,
perpendiculaire à la route.
Perpendiculaire à la route, ce qui faisait que vous voilà, c'est-à-dire que si jamais il y avait une voiture qui arrivait, qui heurtait sa propre voiture, il y avait de gros risques pour le pilote. Sa voiture donc s'est retournée pour des raisons qui sont malheureuses, c'est-à-dire que les roues sont attachées avec des câbles pour éviter notamment que la voiture explosent les confettis voilà, au moment d'un contact. Le problème, c'est que ça a fait du coup un peu basculer la voiture. La voiture était impossible à contrôler sur le côté. Voilà, et donc cet accident a eu lieu parce que le pilote espagnol Alonso de Aston Martin
il a fait un test de frein, voilà. C'est-à-dire qu'il se met devant, il freine pour voir si l'autre derrière est bien pour faire peur.
Voilà, les deux ont joué ensemble. Voilà, il y a eu une défense un peu méchante, un peu dangereuse de Alonso,
musclé,
qui a pris une très très sérieuse, je vais pas dire sévère parce que c'est pas à moi d'en juger, mais très très sérieuse pénalité avec 20 secondes de pénalité, ce qui fait passer de la 6e à la 8e place.
Et 3 points retirés sur sa super licence.
Voilà.
Faut le savoir que les pilotes de F1 ont une licence. Et quand ils sont à zéro, bah c'est comme nous. Et puis ils n'ont plus le droit de conduire. Voilà.
Et là, lui, il a perdu. Ils font des stages de conduite pour récupérer des points.
Je crois que oui. Je crois qu'ils font un stage. Je crois qu'ils font pas un stage, mais qu'ils récupèrent leurs points au bout d'un certain nombre de temps. S'ils mettent de la bonne volonté et compagnie, bon, c'est très compliqué. Mais il a aussi perdu des points, donc voilà. Et ce qui est assez perturbant, alors c'est pas l'accident parce qu'on en a vu beaucoup. Le pilote va bien, tout va bien et compagnie, mais c'est ce qui a découlé de cet accident.
Oui, c'est une absence de drapeau rouge. Alors pourtant, le pilote l'a demandé à la radio au début très paniqué, parce qu'effectivement, quand on se rend compte qu'on est perpendiculaire à la route, on a peur pour sa vie. On se rappelle de certains accidents, parfois même mortels, malheureusement, qu'il y a eu dans les sports automobiles ou avec des voitures qui sont faites transpercer. Russell a vite paniqué, a demandé est-ce qu'il y a un drapeau rouge. Ce drapeau rouge n'est jamais arrivé. Alors c'est une opinion personnelle. Je me suis rendu compte en allant sur les réseaux qu'elle n'était pas forcément partagée, même si beaucoup pensaient comme moi. On va dire que ça fait un peu un 50-50. Mais effectivement, je trouve ça extrêmement dangereux, malgré le fait qu'il ne reste qu'un tour, de ne pas avoir mis un drapeau rouge. C'est-à-dire que si jamais un pilote avait...
Un drapeau rouge, c'est tout le monde rentre dans les stands le temps de régler le problème de la voiture qui est sur la piste et puis après on revient.
C'est ça.
C'est une pause en fait. C'est une mi-temps.
À la place, il y a eu un drapeau jaune, une virtuelle safety car après que la safety car elle-même, donc c'est-à-dire la voiture de sécurité qui vient pour s'assurer que le pilote va bien et pour essayer de régler le maximum des dégâts qu'on peut faire, est venu. Mais voilà, le pilote a eu très peur entre temps et en même temps, c'est compréhensible. Et d'autant plus que la pénalité d'Alonso a été prise pour comportement potentiellement dangereux, ce qui est une quasi première, je crois, pour une sanction aussi lourde dans l'histoire de la FIA. Encore une fois, c'est une décision que je trouve incompréhensible dans la sanction et dans l'action à l'instant T du côté de la Fédération internationale automobile. Soit vous décidez de mettre drapeau rouge et dans ce cas-là, vous faites une sanction sévère parce que vous considérez qu'il y a un accident important qui met. A mis sérieusement en danger la vie du pilote. Soit vous considérez que voilà, c'est ça, il y avait moyen que le taux de dangerosité n'était pas si élevé et que d'autant plus le taux d'implication du pilote n'était pas si haut non plus, vous mettez une pénalité moins grosse. Mais le fait de mettre la pénalité très grosse et ne pas avoir agi à l'instant T, c'est encore un paradoxe que j'ai du mal à m'expliquer du côté de la FIA et des conditions très très dangereuses qu'on voit encore dans les grands prix automobiles.
La FIA qui ont leur bureau.
Alors là, vous m'avez de quoi ?
À Paris.
À Paris.
Voilà.
Voilà. Bah on ira ensemble.
Mais évidemment, voilà, bien sûr.
On va faire tous les sports avec toute l'équipe des Swiss Sports.
Oui, et voilà. Alors, je pense que c'est l'accident qui a amené l'action d'Alonso qui a amené à l'accident et que donc il a été pénalisé non pas par rapport à l'accident, mais par rapport au comportement qu'il a eu qui a amené à. Voilà. C'est la petite spécificité.
Exactement, je savais que vous seriez précisé.
Je sais, mais je ne vais pas m'éterniser, on vous laissera aller vous faire votre propre avis et aller voir les ralentis sur les plateformes destinées. Merci beaucoup, Erwan, parce que sinon je vais m'étaler et puis on va passer 2 heures dessus et puis on n'a pas le temps pour ça. Anne-Françoise, je sais que vous...
Oui.
C'est pas souvent qu'on vous entend parler de foot, mais vous allez en parler.
C'est vrai, c'est mon flop. C'est vrai que je parle pas souvent de foot, mais là j'ai quand même pensé que comme flop, la défaite de la France face à l'Allemagne à Lyon, ça méritait un petit flop. Alors déjà parce que il y a quand même eu, un petit déficit technique quand même assez abyssal, assez effrayant. On est encore plus près de l'Euro que des JO, donc ça arrive quand même très très vite. Et puis, moi, je les ai trouvés pas assez inquiets, en fait. On aurait un petit peu dit Fabien Galthié à la fin. Oui, alors c'est une bonne piqûre de rappel. En fait, les gars, faudrait peut-être vous bouger. Ça fait 2 fois qu'on perd contre l'Allemagne en 6 mois.
Fabien Galthié.
Et là, franchement, le match, c'était un peu un non-match. Enfin, c'était un peu effrayant, quoi.
Il y a eu un Galtier qui est sorti, c'est peut-être un Didier Deschamps.
Un Galtier. Non, non, mais non, justement, c'est qu'on en aurait dit Galtier qui s'excuse à la fin des matchs pourris de l'équipe de France.
Bon, après, ça reste un match amical.
Bon. Non, mais d'accord, mais bon, t'es à moins de 3 mois de l'Euro. Quand même, moi, je trouve que. Bon, voilà.
On est quand
alors,
même
on les sentait pas trop
monde.
Engagés, hein, clairement, peut-être que. Voilà, mais.
On a fait match nul contre la Grèce au dernier match, hein. 2-2.
Oui, bah, c'est pas beaucoup mieux.
Oui, c'est vrai.
C'est pas beaucoup mieux. On va pas s'étendre sur cette défaite-là. Comme top, je voudrais vous proposer un sport dont on parle pas souvent. Enfin, on en a parlé avec une invitée il y a quelques mois. Je voudrais vous parler d'Ultra Trail. En fait, il y a pour la première fois de l'histoire, il y a une femme qui s'appelle Jasmine Paris, qui est écossaise, et qui a fini l'Ultra Trail, le mythique Ultra Trail de la Berkeley. Il faut savoir que c'est 160 km avec, accrochez-vous bien, 20 000 mètres de dénivelé positif qui ont lieu en fait,
sur la Lune à ce niveau-là.
C'est ça, qui ont lieu aux États-Unis. Voilà, en fait, il faut faire 5 boucles de la même course et maximum, c'est en 60 heures. Et elle a fini 1 minute 39 secondes avant les 60 heures. Donc, elle est la première femme au monde à l'avoir fini cette course incroyable.
Bah, c'est pas humain. Quand on a quand on a reçu Franck Debrilly, qui était le secrétaire du Toulouse Triathlon, les Vachettes, me semble-t-il.
Oui, à trois pattes.
À trois pattes. Voilà. Et bien en fait, lui aussi, il a commencé le triathlon comme ça, et puis il a apprécié, et puis maintenant il en a fait une quinzaine, et quand il nous parle du triathlon, c'est vraiment incroyable. Cette débauche d'énergie, tous ces efforts que ça demande. Et même avec les distances, et ce que vous nous annoncez, Anne-Françoise, c'est quand même assez incroyable.
Moi, rien que de me dire qu'elle a couru pendant 60 heures.
Mais moi, ça m'a soufflé.
Couru et marché, j'imagine un peu, mais je ne comprends pas. Voilà, je suis épatée.
Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans les tops. Merci beaucoup, Anne-Françoise. Nous essouffle. Voilà, ça nous essouffle. On va tout de suite parler d'un sport qui va tout aussi nous essouffler, puisqu'on essaie de le pratiquer humblement ici à la radio pour avant les émissions. Tout de suite, on va parler tennis de table.
Esprit Sport, le face-à-face.
Aujourd'hui, en face-à-face, nouveau sport olympique, puisque nous allons parler de tennis de table avec le manager sportif de l'US Montauban Tennis de Table. Bonjour Alboran Molinar.
Bonjour.
Alors, première chose, tennis de table, c'est quand on est en club et quand c'est sérieux, le ping-pong, c'est au camping l'été.
Alors ça, c'est ce qui se dit, hein, mais ça se démocratise de plus en plus. Les trois quarts des joueurs, voire 90% des joueurs que vous allez rencontrer, ils vont vous dire qu'ils vont à l'entraînement de ping, qu'ils vont jouer au ping-pong, qu'ils vont à leur compète de ping. Voilà, alors le tennis de table, on va appeler ça le tennis de table parce qu'on est en fait affilié à la Fédération Française de Tennis de Table. La Fédération Française ne s'appelle pas la Fédération Française de Ping-Pong. Donc évidemment, on a tendance à dire souvent que le ping-pong, c'est l'aspect loisir, ludique, et que le tennis de table, c'est l'aspect compétition plutôt.
Voilà, comme ça au moins on a mis les bases pour ce sport qu'on va retrouver au JO. Avant de partir direction Paris 2024, on va revenir à Montauban, le club de l'US Montauban. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Vous en plus, vous êtes au cœur de ce club, vous êtes manager sportif. Il y a 15 jours, il y a eu de bons résultats et on espère que ça va continuer. Depuis quand on retrouve ce club? Où est-ce qu'on le retrouve? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors l'US Montauban en tennis de table, donc c'est le club de Montauban, hein, le seul club de tennis de table de Montauban, et puis le gros club du département. Alors moi je suis salarié au club en CDI depuis 2006, donc ça fait maintenant 17 ans que je suis au club en tant que manager sportif. Le club a été créé donc en 73, donc on a fêté les 50 ans l'an dernier. Du club. Alors il a changé de nom, hein, entre 73 et aujourd'hui, puisqu'on a rejoint donc l'Union Sportive Montalbanaise, qui regroupe une quinzaine d'activités sportives, notamment le rugby, le golf, le volley, etc., l'escrime. Le club est situé donc au cœur de la ville de Montauban, quartier Ville-Bourbon, depuis 73, au gymnase Louis Sabatier. Donc on a un club de niveau national, hein, avec une équipe 1 en National 3. Qui se maintient. On a été également en National 2 il y a quelques années. On a des joueurs qui évoluent également au niveau national en individuel. On a un club plutôt formateur. On a quand même 70% de jeunes de moins de 18 ans dans le club sur nos 220 licenciés. Donc voilà, club plutôt formateur, qui se veut formateur avec une école de jeunes dynamique, et puis des résultats. Hein. On a eu des médailles au championnat de France il y a quelques années. On a là encore une joueuse, vous le disiez, il y a 15 jours, qui a gagné le championnat Occitanie dans la catégorie de minime fille et qui s'est qualifiée pour les championnats de France qui auront lieu à Tours. Donc voilà, on a des résultats chaque année. On a aussi une douzaine d'équipes, parce que le tennis de table, c'est un sport individuel mais qui se joue aussi en équipe. On aura peut-être l'occasion d'en reparler au niveau des Jeux Olympiques, puisqu'il y a aussi une épreuve par équipe aux Jeux Olympiques. Une épreuve qui a aussi eu lieu il y a 3 semaines, 1 mois, en Corée avec
Avec de
l'aboutissement
belles
congolais avec deux
performances de l'équipe
médailles.
de France, ouais.
Exactement, une médaille d'argent, donc vice-champion du monde pour l'équipe masculine, et puis une médaille de bronze pour l'équipe féminine, c'est quand même historique. Donc voilà, et on est aussi donc un sport d'équipe, puisque donc on a une douzaine d'équipes sur le club, de la nationale 3 jusqu'à la départementale 4. Donc on a quasiment, non pas quasiment, on a une équipe par division en fait, de N3 à D4.
Alors
Voilà.
justement, une équipe par division, comment ça se passe? Parce qu'on imagine que les niveaux, quand on est en élite ou en régional, il y a des déplacements à faire. Comment ça se passe? Est-ce que la fédé ou la région prend en charge une partie du déplacement? On va prendre un exemple, hein, dans une des poules où est l'US Montauban, on retrouve Monaco, Montpellier. Besance,
Fréjus,
Fréjus, voilà. Donc
Besançon,
c'est
oui.
pas la porte à côté comme on dit. Comment
C'est ça.
vous arrivez à financer ces déplacements?
Alors, le financement, en fait, ça représente un gros budget, hein, une équipe en nationale pour un club de tennis de table. Effectivement, entre le déplacement aller-retour, donc soit en avion, soit en location de véhicule, plus l'essence, le péage, si on y va en voiture, évidemment, ainsi que les hébergements. Donc, il faut prévoir les hôtels, les restaurants, parce qu'il faut se restaurer aussi. Hein. Quand on part un week-end, c'est au moins 2 repas, midi et soir. Donc, ça, c'est un budget assez important qui est soit pris en charge grâce à du sponsor, des sponsors, des mécènes qu'on va chercher, hein, qu'on démarche. Donc ça peut être des sociétés, des restaurants de la ville, des commerçants, des artisans, voilà. Après, évidemment, il y a aussi des demandes de subventions qui sont faites auprès du conseil départemental, du conseil régional, de la municipalité, mais qui évidemment ne permettent pas forcément de couvrir l'intégralité des dépenses dues à nos équipes, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a un engagement payé. À chaque fois qu'on a une équipe qui est engagée, on paye un engagement auprès de la fédération pour les équipes de national, auprès de la Ligue Occitanie pour les équipes de régionales et auprès du comité départemental de Tarn-et-Garonne pour les équipes de départementales.
C'est là
Alors
où le
évidemment, c'est
terme
dégressif.
partenaire, il prend tout son sens, du coup.
Exactement, oui, c'est ça. En fait, il y a des partenaires à tout niveau, à tout échelon, qui nous aident plus ou moins, de manière plus ou moins importante, en fonction des budgets, en fonction justement des résultats. Ça peut être important de savoir qu'un club qui a 200 licenciés, il sera plus aidé qu'un club qui en a 30. Et de la même façon, un club qui présente une équipe en nationale pourra peut-être être davantage aidé, avoir des subventions complémentaires qu'un club qui a qu'une équipe en départementale, par exemple.
Comment se
Voilà.
passe un tournoi dans votre club? Parce que je sais que vous en avez accueilli quelques-uns. Est-ce que vous pouvez nous le déroulement, parce que c'est dans des grandes salles. On sait qu'on peut faire du tennis de table à l'intérieur et à l'extérieur. Là, on va se focaliser sur les salles en extérieur. Au niveau des tables, tout ça, comment vous vous organisez? C'est pas comme au
Alors,
collège où on fait des tournantes table 1,
non,
table
c'est
12.
sûr. Alors nous,
Ça, un petit peu plus
on
compliqué,
a
ouais.
eu la chance, c'était aussi une première, hein, je crois, cette année, on a eu la chance d'organiser, il y a ce qu'on appelle la compétition majeure du tennis de table, qui est le Critérium fédéral, donc c'est ce qu'on appelle vulgairement les indives, hein, les individuels. On a eu la chance d'organiser donc un tour de national en décembre, et ce qui est très rare et qui n'arrive jamais, c'est que la Ligue nous a octroyé également un tour de pré-national en janvier, c'est-à-dire qu'en fait, on a organisé deux grosses compétitions sur les quatre qu'il y a dans l'année. On a organisé le tour de national à Montauban. Donc là, c'est une grosse compétition avec 200 joueurs, filles et garçons, qui viennent en découdre donc de toute la zone sud-ouest. Donc, ça va de Poitou-Charentes jusqu'à Occitanie, évidemment, Nouvelle-Aquitaine, etc. Donc, là, on a dû, pour la première fois également, demander le Palais des Sports Jacques Chirac de Montauban, qui est un superbe complexe sportif qui a ouvert il y a très récemment, qui est flambant neuf. Et du coup, ça a demandé une grosse logistique aussi avec déménagement de nos tables, puisqu'on a dû quitter notre gymnase. Donc, les 24 tables ont été déplacées par déménageurs pour aller jusqu'au complexe sportif Jacques Chirac pour cette compétition donc du mois de décembre. Et ensuite, on a en janvier organisé le tour de pré-national dans notre salle, mais aussi au gymnase que nous, nos sous-sols. On a organisé donc le tour de pré-national au sous-sol et à l'étage du gymnase Louis Sabatier.
Ouais, donc ça
Donc pareil
demande
sur 24 tables.
une vraie organisation, hein.
Ah, il y
24
a une vraie
tables,
organisation, il y
c'est...
a énormément de bénévoles, il y a les dirigeants, on est salariés, on a des salariés, on est deux éducateurs salariés à Montauban, au club. Donc on était mobilisés évidemment tout le week-end, mais ça demande aussi une préparation en amont, hein, parce qu'il y a une buvette qui rapporte aussi des sous. Il n'y a pas que le fait d'organiser qui nous rapporte de l'argent, il y a aussi le fait de proposer l'alimentation, des boissons aux joueurs. Et puis après, il y a aussi des arbitres. On avait des arbitres à fournir parce que pour la compétition nationale, c'est obligatoire, on doit fournir des arbitres.
C'est vous qui
C'est pas
fournissez
les.
les arbitres, c'est pas
Voilà, c'est
la
ça. C'est le club
fédé ou
organisateur.
la région
Alors
qui...
là, en l'occurrence, pour un tour de National 2, sur les 24 arbitres qu'on doit fournir chaque jour, il y en a 8 qui sont fournis par la Ligue. Donc à nous, reste à notre charge 16 arbitres à trouver par jour, samedi et 16 dimanches. Donc voilà, ça aussi c'est une organisation, ça aussi c'est de l'investissement, c'est de la formation aussi, parce qu'il y a des arbitres qu'on a dû former spécifiquement pour l'épreuve. Donc voilà, et je vous dis, c'est la première année, cette saison 2023-2024, où un club d'Occitanie a obtenu l'organisation de deux tours d'un div. Et en plus, d'autant plus à un mois d'intervalle, parce que le tour de National 2, le deuxième tour de National 2 qu'on a organisé, dont on a obtenu l'organisation par la Fédé, ça a été en décembre. Et le troisième tour de pré-national qu'on a obtenu par la Ligue Occitanie, c'était en janvier. Donc on a enchaîné à un mois et une semaine d'intervalle, deux grosses manifestations, voilà, qui nous ont
Avec
rapporté des
succès.
sous aussi.
Avec succès, on l'imagine.
Et ça s'est très bien passé. On a eu des très bons échos, des très bons retours, notamment au niveau du matériel et puis je vous dis de l'infrastructure. L'infrastructure qu'on a proposée au complexe sportif Jacques Chirac, qui est vraiment un superbe complexe.
Pour tous ceux qui ont envie de franchir le pas, de passer du loisir au club un petit peu plus où il y a un petit peu plus de difficultés, un petit peu plus de compétition, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour
Eh ben alors
s'essayer?
nous, alors on est au gymnase Louis Sabatier, au 22 avenue Chamier à Montauban, c'est le quartier Villebourbon. On est vraiment à 200 mètres de la gare de Montauban. Voilà, après, au début de chaque saison, on a également la fête des sports qui est organisée au cours Foucault à Montauban, où on propose justement des flyers, des informations, les plannings. Mais globalement, on a la chance d'avoir une salle spécifique, c'est-à-dire qu'on y est toute la semaine. On propose des entraînements du lundi au vendredi tous les jours et le mercredi après-midi, évidemment, de 14h à 22h, on est full. Donc voilà, on a la chance d'avoir cette salle spécifique donc, qui nous permet d'avoir des entraînements toute la semaine. Et alors les loisirs peuvent venir s'entraîner parce que vous me disiez de passer du loisir à la compétition, mais on peut également être inscrit en club et continuer à ne pas vouloir faire compétition, mais à progresser quand même et donc à vouloir pratiquer régulièrement. On a une grosse grosse un gros groupe de loisirs à l'USM Tennis de Table, donc qui viennent s'entraîner les lundis et jeudis soirs notamment en pratique libre. Donc là, la différence en ce qui différencie les compétiteurs des loisirs, c'est que les loisirs n'ont pas forcément d'entraîneur. Ils viennent en pratique libre pour s'amuser, pour se former eux-mêmes ou apprendre avec des joueurs de leur niveau. Voilà, et il y a quand même un créneau dirigé par semaine, le mercredi soir, de 20h à 22h, où j'ai un collègue qui encadre, qui propose une animation au loisir. Voilà.
Et mon petit doigt me
Donc.
dit que si on vient vous voir dans vos locaux, il y a un maillot de Félix et Alexis Lebrun. Donc voilà, ce sera.
Tout à fait, vous avez bien raison, et d'autant plus que j'ai eu la chance récemment d'avoir eu des maillots dédicacés et des posters dédicacés parce qu'on a une tombola au club et on va mettre en jeu pour le meilleur vendeur parmi nos jeunes qui vont vendre les carnets de tombola, un des maillots de Félix ou Alexis au choix, dédicacés, puisque c'est leur père Stéphane Lebrun qui me les a remis lors du tour de Critérium fédéral du premier tour d'Indy, justement, où on s'était vu à Angoulême. Et il m'avait remis les deux maillots et les posters parce que j'avais fait la demande d'avoir une animation avec eux. Et évidemment, en année de préparation olympique,
De
c'était
passer à côté de cette
impossible.
occasion.
Alors, c'était surtout impossible de
Ah
les avoir
oui.
avec,
On imagine bien, parce qu'ils
avec
étaient, il y a un mois, ils étaient en compétition en
en
Corée.
Corée.
Et là où
Oui, tout
ça
à
s'est
fait.
très bien passé, ils ont fait finale la première fois depuis 97, si je me trompe pas.
C'est ça, exactement. Oui, c'est la première fois que l'équipe de France
Voilà.
masculine
Il n'y
fait
a que
finale
trois
depuis
médailles
2007.
en masculin, il n'y a que trois médailles qui ont été ramenées depuis l'histoire de l'équipe de France de tennis de table. Et là, c'était la quatrième.
Exactement.
Donc
C'est ça.
voilà, c'est justement, on va la faire cette transition. Félix et Alexis Lebrun, c'est un petit peu les Kylian Mbappé du tennis de table en France. Est-ce qu'on peut les comparer
C'est
comme
ça.
ça?
Bah oui,
Il y a
enfin,
Simon Gauzy aussi.
je vous le disais, on a vraiment deux pépites qui sont dans le tennis de table, de baigner dans le tennis de table depuis tout petit. C'est une histoire de famille. Leur tonton, c'est quand même Christophe Legout, qui a été à l'époque des Mousquetaires en équipe de France également, qui a été jusqu'à numéro 14 mondial, qui est un pongiste connu et reconnu en France. Leur papa, Stéphane Lebrun également, qui est à Montpellier. Voilà, c'est aussi une pointure du tennis de table. Je veux dire, ils ont tout pour réussir. Et en plus, ils sont hyper humbles, ils sont hyper accessibles. C'est deux gamins qui font beaucoup de bien à notre discipline. Et je pense qu'ils vont en faire encore beaucoup, et notamment à l'approche des Jeux Olympiques et aux Jeux Olympiques, puisqu'on a, avec Simon Gauzy, comme vous le disiez, qui a porté l'équipe de France pendant plusieurs années parce qu'il était en attente justement d'avoir la relève. Et la relève, là, aujourd'hui, elle est là. Elle l'a même dépassée. Hein. Il l'a dit lui-même dans une interview. Je me souviens, il a dit il y a un an et demi, ces garçons, là, les Lebrun, ils étaient millièmes mondiaux. Maintenant, ils sont dans le top 20 tous les deux, voire même numéro 6 pour Félix. Donc, il a dit, voilà, je ne les ai pas vus venir, mais finalement, moi, je me voyais tout beau et je me voyais aller au JO, avoir ma place au JO en simple. Mais en fait, il a compris que bah, ça
Ça
y
va
est,
être
cette
un petit
fois, c'est
peu plus
fini, quoi.
compliqué.
Il pourrait pas jouer, en tout cas en simple, parce qu'il n'y a que deux joueurs par nation et que bah, ça serait Alexis et Félix, certainement, qui seraient positionnés en simple pour les Jeux Olympiques de Paris, quoi.
Justement,
Voilà.
ces JO, on entend beaucoup parler des Coréens, des Chinois. Est-ce qu'on a une réelle chance pour ces Jeux Olympiques qui seront à la maison, hein, à Paris, d'avoir
Oui.
une chance de médaille? On l'a vu, hein, ils sont capables de rivaliser. Donc, est-ce qu'on peut croiser les doigts pour avoir une médaille?
Bah, Alexis, donc très récemment, il y a 15 jours, comme vous le disiez, même 3 semaines, au championnat du monde, il a eu une balle de match en Fan Zhendong, numéro 1 mondial, qu'il avait déjà gagné en avril. Oui, sur un match, tout est possible. Après, on a aussi la chance, il faut le dire, hein, les Chinois, ils sont, comme vous avez pu l'entendre, les 5 premiers mondiaux sont chinois. Donc, sauf que les 5 ne peuvent pas participer aux Jeux Olympiques. C'est deux sélections par pays. Donc, déjà, ça ouvre un peu
Ce qui
plus les portes.
facilite, oui.
Ça facilite, bah évidemment, ça veut dire que un Félix Lebrun potentiellement peut être tête de série numéro 3 de cette compétition, donc de pas rencontrer un Chinois avant les demi-finales. Et on sait tous qu'en demi-finale, on est médaillé au tennis de table. Donc, je veux dire, il y a des chances de médaille. Alors en simple déjà. Après, ça sera dur. Hein, attention. Hein, et effectivement, vous l'avez dit, il y a les Coréens. Il y a des excellents joueurs aussi au Japon. Voilà. Bon, en simple, ça sera compliqué. Mais par contre, on est une très belle équipe. De tennis de table, je pense, équipe de France cette année, et on sera aussi tête de série. Et donc, on a des chances aussi, selon, toujours pareil, à quel moment du tableau on va avoir la Chine, on a des chances d'aller loin. D'ailleurs, moi, le premier, j'ai pris mes places pour
Ah, ça
les
y est.
quarts et les demi-finales des championnats par équipe, davantage en me disant bah, j'aurais plus de chances de voir l'équipe de France en prenant quart et demi qu'en prenant quart et demi des simples, par exemple. Parce que ça, j'ai pas de garantie qu'il y aura un Félix ou un Alexis en demi-finale, par exemple. Tandis que j'ai du grand grands espoirs, comme beaucoup, comme la fédération certainement, de médailles en équipe, quoi.
Qu'est-ce que vous
Voilà.
attendez au niveau régional, même au niveau local, avec votre club, de ces JO, de cette mise en lumière et de cette, comment on peut dire, de cette élévation du tennis de table récemment, à l'image de la performance des Bleus contre la Chine? Qu'est-ce que vous attendez de cette
Bah,
mise en lumière?
on observe déjà, si vous voulez, aujourd'hui, alors que les JO ne sont pas passés, on observe déjà un engouement pour le tennis de table qu'on n'observait pas il y a encore quelques années ou quelques mois. La médiatisation des frères Lebrun, les vidéos qui ont pu être diffusés de leurs plus beaux points, qu'on voit régulièrement passer sur les réseaux sociaux. Et effectivement, le phénomène des réseaux sociaux fait un bien fou au sport en général, mais au tennis de table encore plus, parce que le tennis de table, quand même, c'est pas un sport qui est très médiatisé initialement. Ils ont essayé de faire des efforts depuis 20 ans, avec la taille de la balle qui a grossi, pour ralentir le jeu, les nouvelles règles, le fait de plus pouvoir masquer au service, etc., pour que ce soit un peu plus télévisuel. Mais là, l'effet Lebrun, il est très clair. Et on espère que nous, club, quel que soit le club, quels que soient les clubs, on espère qu'effectivement, on verra une répercussion au niveau du nombre de licenciés, comme à l'époque de Jean-Philippe Gatien, quand il a eu son titre au championnat du monde, ou sa médaille aux Jeux Olympiques. Les années qui ont suivi, bah oui, il y a eu un engouement, oui, il y a eu plus de licenciations, plus de jeunes qui ont commencé le tennis de table. Enfin, voilà, on sait qu'il y aura un effet certainement comme ça, et encore plus si on fait une médaille. Une médaille aux Jeux Olympiques, elle apporte toujours pour le sport, pour la discipline. Et d'autant plus, je vous dis, les Lebrun, pour les connaître un peu, pour les avoir vus évoluer, ils sont restés eux-mêmes, ils sont très humbles, ils sont hyper accessibles.
Ils ont pas pris la grosse tête.
Il n'y a aucun, rien à voir, mais tout le monde vous le dira. Ils sont hyper accessibles, ils sont hyper sympas, ils sont restés eux-mêmes. Il y a d'ailleurs des vidéos très sympas qui circulent parfois sur eux-mêmes quand ils sont suivis par leur équipe de communication et tout. On voit qu'ils sont très drôles, qu'ils jouent à la Switch.
Ça reste du sport et ils prennent du plaisir dans ce qu'ils font.
Voilà, ils prennent du plaisir, ouais. C'est ça. Et puis, il y a des choses qui ne trompent pas, c'est que même les Chinois, ils commencent à s'interroger, quoi. Donc à un moment donné, quand on arrive à même faire douter les meilleurs du monde, la nation qui écrase le tennis de table depuis 20 ans, bon, on se dit que peut-être il y a quelque chose, quoi, avec eux. Voilà, même les Chinois, ils se posent des questions sur comment ils s'entraînent, comment ils sont arrivés si vite, comment ils progressent autant, et voilà.
Peut-être que 2024, c'est l'année, le nouvel espoir pour les chances de médailles au JO, pour l'équipe de France de tennis de table. Merci d'avoir été avec nous, Alboran Molinar, je le rappelle. Vous êtes le manager sportif de l'US Montauban Tennis de Table. Et donc, on vous retrouve principalement sur Facebook.
Facebook et Instagram, tout à fait. On a la page US Montauban Tennis de Table, US Montauban TT. Voilà, vous avez toutes nos actualités, nos horaires, les coordonnées pour nous contacter. Si vous souhaitez commencer le tennis de table, il n'y a pas de problème. Voilà, on organise des stages pendant les vacances, puis vous avez des entraînements toute l'année.
Voilà, toutes les informations sont données et j'essaye de motiver toute l'équipe pour venir faire un entraînement avec vous. Voilà.
Ouais, très bien, ouais, vous êtes les bienvenus.
Ah, ben vous voyez, on a encore une nouvelle invitation pour aller faire du tennis de table. Erwan, ça vous tente?
Ah oui, bien
vous,
sûr.
Vous, notre sportif sans frontières.
Ah oui, mais le cobaye sportif sans frontières, oui. Même, je dirais. Enfin, mais là... oui, mais le tennis de table est un sport que je pratique mal, mais que je pratique.
Julien peut en témoigner.
Je peux en témoigner. C'est... Exactement.
Pour le mal et pour le fait que je le pratique.
C'est vrai que oui. Quelqu'un qui se débrouille plutôt bien ici. Ben non, personne en fait.
Ben c'est pas moi, oui, ça c'est sûr.
On a jamais joué avec Anne-Françoise d'ailleurs.
Non, j'ai pas osé parce que je sais que vous êtes. Vraiment pas mauvais, Jonathan.
Ah oui, bah après, je pratique la raquette. J'étais plutôt pas mauvais au collège. Voilà. Enfin bref, voilà, peut-être qu'un jour, on essaiera d'aller faire un entraînement avec toutes ces personnes qui nous ont invités et qu'on remercie, évidemment. Allez, tout de suite, petite séance karaoké dans Esprit Sport avec une reprise de France Gall. C'est un titre original de Johnny Hallyday, il me semble. Mais là, c'est France Gall qui chante. On se retrouve juste après. Est-ce qu'il y a eu un moment karaoké ici? Oui. Coraline, est-ce que vous avez chanté Diego?
Alors non, puisque je découvrais la musique.
Ah bon, vous connaissez pas?
Et non.
Anne-Françoise connaît et elle a chanté Diego.
Bien sûr, bien sûr.
Dans sa tête.
Moi, par contre, j'ai un petit moment Wikipédia. En fait, c'est bien France Gall qui l'a chanté en premier.
Ah d'accord,
en
j'avais
1981, un avant que Johnny la reprenne en 90.
Eh ben, je pensais que c'était d'abord Johnny et après France Gall.
Eh ben non, parce qu'en fait, je pense que c'est Michel Berger l'a écrit. Pour sa femme, en fait.
Et oui, d'abord pour France Gall, c'est vrai. Et bien voilà. Mais c'est des petites anecdotes comme ça qu'on distille. On fait pas que du sport.
Et voilà, c'est ça, c'est la culture. Hein, du sport dans la vie.
On essaiera une blind test sport-musique. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'on fera ça. On
va essayer de faire ça, ça sera trop un bien.
Un petit
ça.
Jeu comme ça.
Si quelle musique avec Coraline, on va gagner.
Oui, ok, d'accord, très
pas
bien.
Pas sûr. Je sais chanter, enfin chanter. Mais je suis pas sûr de
on n'était pas censé vous retrouver à la fin de l'émission, Coraline.
D'accord, à tout à l'heure.
Non, mais c'est pour vous, c'est pour votre bien.
Ça, merci.
Non, mais c'est pour votre bien, Coraline, je veux pas que vous vous fassiez mal.
Les tacles, c'est pas les deux pieds décollés, s'il vous plaît.
Non, bah écoute, est-ce que c'est un carton jaune, Coraline?
Ah là, c'est carton.
Demandons
c'est
la vidéo.
C'est drapeau rouge.
Est-ce que c'est drapeau rouge?
Je pense que c'est drapeau rouge.
Bon, vous faites pas mal, on vous retrouve plus tard. Prenez soin de vous, Coraline. Tout de suite, j'ai 2-3 notifs pour vous. La première, retour sur le match de l'UBB Stade Toulousain. Est-ce que c'était le match de l'année? 31-28 pour Bordeaux. Est-ce que c'était le match de l'année?
Bon, c'était un des matchs de l'année. Après, le match de l'année.
C'était un match très sympa, ouais.
Pas plus. C'était juste un match.
C'était
sympa.
Un match excellent. Mais bon, il y en a plein.
Disons que vraiment. Si Toulouse avait gagné, ça aurait été le match de l'année. Voilà.
Ouh, très bien.
Bah, c'est surtout que le problème du match.
Non, mais le match était sympa. Par contre, alors tout d'un coup, on a redécouvert en fait qu'à l'UBB, il y a d'excellents joueurs qu'on avait vu beaucoup en équipe de France sans trop briller. Mais ils ont vraiment fait des trucs super hier soir. Hein.
Non, oui, c'était un très beau match, c'est sûr, mais le problème, c'était un petit peu que c'était un match en deux temps. Enfin, je veux dire,
oui.
Bordeaux a joué la première mi-temps, enfin, les deux équipes ont joué, mais enfin, on va dire, il n'y a pas eu un gros combat féroce où les deux équipes étaient à leur
maximum. Mais ça manquait de férocité
temps,
pour être le match de l'année.
Et il y a eu, bon, quelques petits, oui.
C'est vrai. Voilà. Donc, c'est pas le match de l'année, mais c'est un très bon match.
On a connu des dimanches soirs un peu plus... On s'endormait devant le match, quoi.
Oui, là, ça, c'est pas sûr. Le cas. Tout de suite, nouvelle notification. On a parlé de tennis de table il y a quelques instants. Les frères Lebrun pour un combat fratricide en finale du championnat de France à Montpellier ce week-end. Alors déjà, première question, même si je connais un peu la réponse, est-ce que vous l'avez regardé?
Oui.
Ah bon? Ah très bien.
Oh oui.
Je pensais pas. Je pensais que j'allais avoir que des noms autour de la table
ah
et
oui,
à distance.
Non, j'ai regardé.
Donc,
sur l'équipe.
Julien, Coraline, Anne-Françoise, vous l'avez pas regardé?
Non. Non, je l'ai pas regardé, mais je sais qui a gagné.
Oui, c'est...
Ouais,
c'est
Lebrun.
C'est Alexis qui a gagné face à son petit frère. Et il y a une image assez incroyable, Alexis Lebrun était debout sur la table, euphorique, pendant que derrière lui, son petit frère pleurait. J'ai retrouvé quelques parties de tennis de table au collège, où il y en avait un des suivants qui gagnait. Et on voit que même malgré le fait qu'ils soient frères, ils n'ont aucune pitié l'un pour l'autre. Et c'est plutôt pas mal.
Imagine l'ambiance à la maison quand ils rentrent, quoi.
C'est
super
ça. Et ce qui est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose pour les JO qui approchent.
Excellente chose, oui.
Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune peine, aucune pitié, autant entre frères que voilà. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Ça permet d'y citer quelques petites infos qu'on n'a pas le temps d'aborder pendant l'émission. Et tout de suite, nouvelle notification et dernière. Défaite des Bleus face à l'Allemagne. On en a parlé avec vous, Anne-Françoise. Est-ce que c'est inquiétant de voir les Bleus perdre face à une Allemagne malade? Et on rappelle que le prochain match, c'est face au Chili, ce mardi soir, à Marseille, au cœur du stade Vélodrome. Est-ce que c'est inquiétant, en quelques mots, à vous?
Non, je pense que c'est très inquiétant. Voilà, on fait des matchs vraiment pas terribles avant de gagner la Coupe du Monde en 2018, et pourtant on la gagne.
On fait finale en 2022. Voilà.
Donc, tout ce qui compte, c'est d'être bon le jour J.
C'est exactement ça. Et surtout que. Pour la petite référence aussi, donc l'historique entre France et Allemagne, il faut savoir que ces derniers temps, ça a souvent été. On perdait contre eux en amical et on gagnait justement dans les compétitions officielles. Donc, par exemple, à l'Euro 2016, je sais qu'avant, on avait perdu aussi contre eux en amical. Et tandis qu'avant, c'était l'inverse, justement. C'est qu'on les battait en amicaux et eux nous battaient en phase finale de compétition internationale.
Comme en 2014, Coupe du Monde.
2014 aussi. Oui, voilà, 2014. Mais même avant, si on en reparle dans les années sombres, les années 80. Avec,
82.
82 avec un drame.
Évidemment.
On va pas ressasser. Voilà, exactement.
Il a fait mal ce match, n'est-ce pas, Françoise? On a toujours une petite rancœur contre les Allemands.
Même
presque plus de 40 ans après.
Oui, non, mais bon, après, moi, je pense que ce qui peut être peut-être un peu plus inquiétant, c'est que...
Si on perd face au Chili.
Il y a beaucoup de gens qui ont pointé l'absence de Griezmann, en fait, comme explication sur le fait que l'équipe de France est un peu déjouée. Bon, ils ont un peu pas joué, en fait. Alors, du coup,
après,
lien ou pas. Ça reste un match amical.
Oui, voilà. Les clubs ont demandé aux joueurs de lever le pied, de pas trop donner. Ça serait dommage de se faire mal maintenant, parce que dans les clubs, il y a des matchs importants qui arrivent pour tout le monde.
Ah bah, ça, c'est...
Et puis, c'est des matchs qui, globalement, servent un peu à rien.
Alors, à ce moment-là, on peut se poser carrément la question d'avoir des matchs comme ça, en fait, à ce moment-là de l'année.
La Ligue des Nations était là pour arrêter ces matchs amicaux qui servaient à rien. Finalement, force est de constater qu'en plus des matchs de Ligue des Nations, il y a aussi et encore ces matchs amicaux qui surchargent le calendrier.
Oui, c'est parce qu'il fallait mettre UEFA pour les barrages, que ce soit de la Coupe du Monde
dans les
barrages de l'Euro aussi avec la.
Dans ce cas-là, pourquoi la FIFA n'a pas dit si vous êtes en barrage, tant pis pour vous, fallait vous qualifier avant si vous voulez avoir du repos. Voilà.
Parce que c'est une compétition reconnue par la FIFA, donc obligatoire.
Mais les autres équipes qui ne jouent pas à ces barrages, ils avaient le droit d'être en repos. Ils sont qualifiés, ils ont fait le travail. Il n'y a pas besoin de jouer des matchs.
Rien n'empêche que les sélections ne sont pas obligées d'appeler les joueurs et qu'ils peuvent leur laisser 2 semaines de repos.
Bah, c'est pour ça que c'est embêtant de parler à Rouen, parce qu'il a souvent de bons arguments.
et en même temps, il faut quand même aussi bien que les équipes nationales elles aient du temps de jeu ensemble. Les équipes elles s'improvisent pas. À 3 semaines de l'Euro, quoi.
Oui, puis ça permet de tester, par exemple, Thuram, qui est excellent avec l'Inter, même s'ils se sont fait récemment éliminer la Ligue des Champions. Bon, ça a été l'occasion de voir que Thuram est excellent avec l'Inter, Thuram peut-être moins excellent avec l'équipe de France.
Un petit peu à l'image de Lucu, en équipe de France de rugby.
Oui, je ne m'attendais pas à cette comparaison, vous me prenez de court, mais
excellent avec Bordeaux, mauvais avec l'équipe de France. Et Anne-Françoise nous l'a dit beaucoup de fois.
Ah, mais alors, du coup je l'ai regardé très attentivement hier soir. Et de fait, il a très bien joué. Alors, dans son style, un style qui a pas ma préférence, mais de fait, ça fonctionnait très bien. Et en fait, les joueurs étaient disponibles derrière lui, ça venait bien. Donc, finalement...
C'est pourquoi une équipe de France ne marche pas. Bon, qui l'eût cru à le cul. Elle est compliquée, celle-là. Merci beaucoup, Anne-Françoise. Fin de notif, on en retrouvera peut-être dans 15 jours. Tout de suite, quel sportif comme porte-drapeau le 26 juillet prochain? Alors justement, ça, c'est une question qu'on pose à tout le monde. On n'a toujours pas le nom du porte-drapeau. Pour les JO, les Jeux Olympiques. On en reparlera aussi pour les Jeux Paralympiques. Mais en tout cas, le 26 juillet prochain, on ne sait toujours pas à qui attribuer ce drapeau, ce bleu, blanc, rouge. Alors, Erwan, je sais que vous êtes très fort, imperturbable, qualifié surtout. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les conditions pour porter le drapeau?
Alors, il peut y avoir 2 porte-drapeaux par nation, un homme, une femme. Potentiellement, on peut avoir seulement un homme ou seulement une femme. C'est à la volonté du comité olympique national de chaque pays. On peut aussi ne pas avoir de porte-drapeau. Certains pays le décident à chaque édition. Il faut avoir déjà participé aux JO. Il faut être considéré comme, je ne connais plus le terme exactement, mais blanchi, on va dire, de tout soupçon de malveillance sportive.
Ouais, il faut jamais avoir été condamné, par exemple pour dopage ou.
C'est ça exactement.
Même pour des faits en civil, hein, je pense.
Oui, et pour des paris truqués, par exemple, ouais. Ce qui empêche Nicolas Karabatic, qui était demandé par beaucoup, voilà. D'être potentiellement porte-drapeau, puisque. Voilà, il a été, comme beaucoup le savent, au début des années 2010, il a été reconnu coupable d'avoir fait des paris sportifs.
Avec son équipe, je crois.
Il ne faut pas non plus avoir déjà été porte-drapeau.
Teddy
Riner, par exemple, ne peut pas porter le drapeau à Paris.
Et Clarisse Agbéjenou non plus, par exemple.
Voilà. Mais Florent Manoudou, peut-être.
Ah, et oui, voilà.
Mais Dupont. Peut-être écrit du cœur. Dupont, Mbappé, Wembanyama... à qui est-ce qu'on peut penser après comme sportif qui surfe sur une vague de popularité monstre
Les frères Lebrun.
Les frères Lebrun, oui. Effectivement,
les
aussi.
Les frères Lebrun, ça pourrait être pas mal, ouais.
Oui, mais ils peuvent pas parce que c'est leur première Olympiade.
Ah, c'est leur première Olympiade.
Et oui. Du coup, on va essayer d'aider le comité olympique qui nous écoute et on les embrasse. Qui est-ce que vous voyez comme porte-drapeau, autant féminin que masculin? À vous de proposer.
Justement, vous parliez de Florent Manoudou et c'est vrai que Florent Manoudou quand même pas mal incarné un peu la réussite du sport français, enfin de la natation, surtout au début des années, enfin au JO 2012, notamment où c'est là où il avait remporté sa première médaille d'or olympique aux 50 mètres nage libre. Et puis voilà, comme un symbole, il arrive un peu sur la fin, donc je pense que ce serait une juste récompense, voilà, de l'avoir en porte-drapeau. Après, sinon aussi, on peut parler donc. Si on en a pour une autre, pour la femme, du coup, on va en prendre deux. Faire comme ça, comme au dernier JO. Et après une longue concertation avec Erwan, on se disait peut-être pas forcément les sportifs d'équipe collective, mais je pensais quand même à Sandrine Gruda, de l'équipe de France de basket, qui elle, justement, est là depuis 2006. Elle a
médaillée d'argent en 2021.
Médaillée d'argent en 2021, médaillée de bronze en 2012. Qui a tout connu, qui a été élue meilleure joueuse du monde, je ne sais plus quelle année, mais enfin, qui elle aussi incarne justement la réussite du sport français. Et du haut de ses 36 ans désormais, pourquoi pas aussi la récompenser, avoir un petit tandem de vieux, si on pourrait dire comme ça, pour rendre hommage.
La nouvelle génération peut-être.
Ouais, voilà, exactement.
En foot féminin, Wendy Renard, capitaine de l'équipe de France de foot, pourquoi pas? Aussi, c'est pas sa première Olympiade, elle n'a jamais été porte-drapeau, pourquoi pas? La question se pose aussi, pourquoi pas Wendy Renard.
Après, c'est toujours compliqué de mettre en avant des sports collectifs, surtout qui rayonnent en dehors du circuit olympique, parce qu'on a cette impression un peu de... qu'on vole la vedette entre guillemets au sport dont c'est justement le moment de gloire, les JO. Même si on va dire le basket à la NBA, etc. Oui, mais en France, on va quand même pas se mentir que la NBA c'est pas le championnat le plus suivi, donc Le fait d'être au JO, ça permet au grand public de découvrir les joueurs d'équipe de France de basket pour la plupart. Et c'est un peu dommage, je trouve personnellement, et je rejoins l'avis de Julien, de mettre une personne d'un sport collectif, on va dire majeur français, en avant.
Ouais, mais c'est ça, même surtout aux États-Unis, comme tu en parlais, ils sont à la NBA, mais là, cette année, ils vont prendre les Olympiades très au sérieux, justement, où, contrairement aux années précédentes, où voilà, bon, ils pouvaient se permettre d'envoyer l'équipe 5 ou 6 et ils étaient quasiment assurés de gagner, mais bon, force est de constater que non. Et surtout aux derniers mondiaux. Donc là, ils vont en venir avec toute leur équipe, avec les plus gros joueurs. Donc même aux États-Unis, où bon, ils sont des fois un petit peu centrés sur eux-mêmes, forcément, ils vont s'ouvrir. Et
Léo Marchand, c'est une très bonne. Natation, il peut. Il était à Tokyo en 2021. Il avait Pourquoi fait les 400 mètres, 4 nages. Pourquoi pas, Léo Marchand?
Pas, mais c'est vrai que je... Oui, c'est vraiment l'idée en fait de génération. Soit on donne Florent Manoudou pour l'idée qu'il a beaucoup accompli et pour le remercier et espérer guider la jeunesse, soit on le donne à Léon Marchand pour dire la jeunesse est déjà là, est déjà extrêmement performante, il y a des chances de médailles très très concrètes avec Léon Marchand, peut-être même les plus concrètes que la France a sur ses JO. Donc pourquoi pas le donner à Léon Marchand pour créer une nouvelle star olympique, notre Michael Phelps à nous, pourquoi pas, Après voilà moi j'avais pensé je vais embrayer sur mes quelques idées. Moi j'avais eu deux idées, donc pareil comme Julien, un homme, une femme. Alors pour l'homme, j'avais pensé à quelqu'un qui succéderait très bien à Samir Ait Said. Je sais pas si vous vous rappelez de qui est Samir Ait Said. C'est un gymnaste français.
Les anneaux
qui...
Ah oui,
les anneaux.
Oui,
oui. Il s'était, ouais, il s'était brisé, hein. la jambe, malheureusement, à Rio, dans un accident qui était terrible à voir. On lui prédisait une fin de carrière au vu de la gravité de la blessure. Au final, il est revenu. Il s'est requalifié pour les JO 2021 et donc il a été porte-drapeau pour la France. C'était un excellent message envoyé à tous les sportifs. Une idée de résilience qui était très belle et de combativité. Moi, dans la même idée, si jamais il arrive à se qualifier, ce qui n'est pas sûr, comme l'a précisé Julien dans son flop, ça serait de voir Kevin Mayer, s'il arrive à se qualifier. C'est quelqu'un qui a déjà participé aux JO, c'est quelqu'un qui a déjà gagné aux JO, même qui a déjà gagné en Coupe du Monde. Il a depuis même les catégories les plus jeunes, il avait gagné donc les championnats du monde, championnats d'Europe, médaille d'or aux JO, médaille d'argent aux JO, excusez-moi. Il a beaucoup fait pour le décathlon français. Il a permis de donner beaucoup de visibilité à cette discipline, à tel point qu'on le retrouve même dans des publicités à la télé.
Pour des rasoirs, bon, ça permet de comprendre passé,
qu'il est,
ouais, merci.
Oui, ça permet de comprendre qu'il est connu du grand public et qu'il représente beaucoup de choses. Oh. Et d'un point de vue des femmes, j'avais aussi pensé à Estelle Mosley. Voilà, la boxeuse qui donc va faire des JO alors qu'il n'est jamais passé pro et qui va faire donc encore participer aux JO à 31 ans. Mère de famille qui a un travail à côté. Il y a vraiment toute cette idée du sport olympique, d'une personne qui pratique un sport à un très haut niveau mais qui continue de le faire au niveau amateur. C'est un beau message, je trouve, qui est envoyé de manière générale, en dehors des carcans professionnels qui obligent à toujours un surplus de toujours plus haut, toujours plus loin, le fait de...
Merci Olivier Mine.
Oui, non mais c'est absolument pas visé contre notre cher animateur de Fort Boyard. Mais voilà, il y a une idée de sport sain qui reste pour le plaisir à certains très hauts niveaux, mais un sport amateur qu'on fait par passion, et c'est beau, voilà. Et puis après, niveau palmarès, il n'y a plus besoin de le présenter, médaille d'or au championnat du monde, médaille d'or aux JO... médaille d'or et puis plein d'autres médailles, que ce soit des médailles de bronze, d'argent à divers championnats, qu'ils soient européens ou tout simplement.
C'est un beau palmarès.
C'est un très beau palmarès, et voilà, ça serait très beau de voir Estelle Mosley et Kevin Mayer, selon moi, porter le drapeau.
Et vous avez les derniers mots sur cette question: qui emporte le drapeau à vos yeux, Anne-Françoise, le 26 juillet prochain?
Ouais, alors issu de sport co, moi j'avais pensé au hand, qui est quand même un sport où les Français performent quand même très très régulièrement. Côté fille, alors j'avais pensé à Cléopâtre Darleux, la gardienne, mais je crois que c'est un peu chaud pour elle de faire les JO, parce qu'en fait elle est en rééducation là, et je suis pas sûr qu'elle y soit, donc peut-être c'est un petit peu une idée un peu foireuse. Par contre, j'avais pensé à la gymnaste. Mélanie de Rezo dos Santos, qui elle arrive avec toutes ses chances pour avoir des médailles autant en individuel qu'en équipe. Donc côté fille, ça pourrait être ça. Et côté garçon, vous savez, moi j'aime bien l'équitation. Donc du coup,
mais c'est vrai,
je me suis
oui,
dit que ça pourrait être Kevin Stott.
Ça
je
peut être aussi
que
l'équitation.
Ça pourrait être Kevin Stott, parce que il a une belle prestance, il est très grand et voilà, il présente bien, et donc voilà, ça pourrait être un porte-drapeau.
Le petit coup de cœur aussi.
Même à cheval.
Et Coralie nous a parlé aussi de Mélina Robert-Michon, qui aura 45 ans pour la cérémonie d'ouverture et qui pourra peut-être être candidate, en tout cas tout à fait crédible pour être porte-drapeau. Voilà, c'est la petite question. Si jamais le comité olympique nous a écouté français, peut peut-être choisir de prendre une de ces personnes. En tout cas, maintenant, ils ont les cartes en main. Tout de suite, quelques instants pour pronostiquer le match qui aura lieu ce mardi 26 à 21h. Attention, Anne-Françoise, top départ. Votre score entre la France et le Chili?
Je vais dire 3-0 pour la France.
Très bien, c'est noté. Erwan, vous?
2-1 pour la France.
Voilà, tout le monde voit pour l'instant la France. Julien?
Moi, je vois un petit 0-0.
Ah ouais, un bon match pourri, comme on appelle ça.
Ouais, je pense, ouais.
Très bien.
Un bon match du mardi soir.
C'est ça, effectivement. Coraline, est-ce que vous avez 2-3 forces pour participer?
Allez, 1-0 pour la France, bien entendu.
Attention, est-ce que vous avez un buteur?
Oula, non.
Giroud buteur.
Giroud buteur. Encore faut-il qu'il joue, on n'a pas encore tout à fait les compos.
Oui, c'est seul Dédé à les secrets.
Dédé, effectivement, voilà. Bon, c'est un peu en roue libre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, exceptionnellement. Pas de semaine, pas d'émission la semaine prochaine. Cette fois-ci, c'est la bonne. Mais vous pouvez retrouver les 30 autres émissions d'Esprit Sport sur Google Podcast si jamais un manque se fait ressentir. Alors, on se retrouve quand même le 1er avril avec une émission spéciale cinéma. Il n'y aura pas tout le monde, on sera en comité réduit. Merci d'avoir été avec nous. Donc, à dans 15 jours.